des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Cube Radio. Cube
Radio. Pour un regard inédit sur la démocratie et la politique. Un éclairage innovant qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Patrick Desrives.
Alors, le visa a été refusé à Victoria Azarenka, qui est une ancienne championne de tennis mondiale. Le Canada, est-ce que c'était justifié comme décision? On en discute avec Maxime Lapointe, qui est notamment avocat en immigration, mais aussi collaborateur à l'émission. Salut Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors, dis-moi, écoute, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que c'était justifié ou est-ce qu'on a juste l'air fou?
Bah, sûrement, c'était pas justifié. Là, ça nous fait penser, là, ça fait peut-être quoi 2 semaines, on avait eu une artiste qui venait au festival de jazz, une artiste africaine dont le visa a été refusé à la dernière minute aussi. Refusé ou pas encore approuvé, là, du moins à la date de voyage. Là, on vient qu'on le sait plus. Puis c'est redondant, hein, Patrick, les 2,4 millions de demandes d'immigration au Canada partout dans le monde, les délais de traitement, les dossiers qui s'accumulent. Là. Donc, on a une joueuse de tennis ici qui avait des engagements professionnels avec des commanditaires dans le cadre d'un tournoi qui a vendu des billets, des gens qui voulaient l'avoir.
Ça, c'était pour l'omnium de la Banque nationale, Maxime?
Ouais. Et puis, donc sur son Twitter... Madame Azarenka a dit qu'elle ne pouvait pas malheureusement participer. Mais par contre, elle va être là à Cincinnati, aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça paraît mal. Quand on a parlé du dossier la dernière fois, justement, du festival de jazz, Patrick, j'étais sûr, honnêtement, que c'était un événement isolé. Je me disais, ça se peut pas que des événements d'envergure comme ça subissent des ratés de la sorte, des visas, des permis de travail, des visas de visiteurs, appelle ça comme tu veux, des entrées au Canada qui fonctionnent pas. Maintenant, avec l'année qu'on a, tu as vu avec Air Canada, les bagages, entre autres. Donc, c'est une année difficile au niveau du voyage, mais c'est sûr que c'est pas acceptable. Donc,
mais pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu sais, justement, il y a un événement, on le sait, il y a des, soit dans ce cas-ci, soit une athlète ou une musicienne, c'est un événement international. Pourquoi qu'on y arrive pas? C'est-tu qu'on s'y est pris trop tard ou c'est juste le système est tellement embourbé qu'il est juste plus capable de fournir?
Ben, c'est un peu la limite du premier arrivé, premier servi. Il y a tellement de demandes dans la machine. La machine est tellement embourbée. Peu importe le ministère, là, on le voit là tous les jours. Il y a toujours un article là-dessus. Donc le premier arrivé, premier servi ne fonctionne plus. Deuxièmement, il y a des pays, on le sait, Patrick, qui les ressortissants étrangers sont obligés de demander un visa pour entrer au Canada. Et il y a l'autre catégorie de pays, je pense plus à l'Europe, les États-Unis, entre autres, où est-ce qu'on a besoin d'une autorisation de voyage électronique qui se demande en ligne, qui coûte 7 $, qu'on obtient en quelques minutes.
Et donc, c'est quoi la différence entre un visa et une autorisation de voyage électronique? Parce que nous autres, on n'est pas nécessairement habitués. Moi, je vais en France, je montre mon passeport, puis c'est réglé. Aux États-Unis, la même chose. Là. Ouais. C'est quoi ces documents-là? Ça sert à quoi?
Ben, le visa, donc, il y a une procédure qui est plus poussée de sécurité, de santé, on envoie une demande de visa au consulat local. Après, on envoie le passeport original dans une enveloppe et il nous revient avec un visa qui est étampé dans le passeport qui nous permet de voyager. Et l'autre processus, autorisation de voyage, c'est un processus en ligne, électronique, qui va super vite et qui est pas contraignant pour personne. Et là où je vais attirer ton attention, Patrick, c'est qu'on a deux grandes familles. Les pays qui ont besoin d'un visa, les pays qui ont besoin d'une autorisation de voyage électronique. Et on fait certaines exceptions, je pense entre autres au Brésil, à la Roumanie aussi, à la Bulgarie, où est-ce que normalement on aurait besoin d'un visa, mais si on a déjà eu un visa pour les États-Unis dans les 10 dernières années, ah, là, on peut demander l'autorisation de voyage électronique. Donc, cette madame-là, justement, Azarenka, qui, elle, est de Biélorussie, si on avait ajouté, exemple, ce pays-là dans la liste des pays où on a déjà eu un visa des États-Unis et on peut demander une autorisation de voyage électronique plus facilement, bien, on l'aurait sauvé.
Mais excuse-moi, Maxime, je pose la question du gars qui connaît pas ça. Là. Moi, quand je vais aux États-Unis, j'ai pas besoin de visa. Tu sais, j'allais régulièrement avant la pandémie en vacances avec les enfants, par exemple. On louait une maison quelque part, puis bon, on restait là une semaine. C'est quand que ça prend un visa?
C'est pas évident pour un... Ta question est bonne, Patrick. C'est pas évident pour un Canadien de dire hein, comment ça, c'est compliqué de même pour plusieurs ressortissants étrangers de pays. Tu sais, il y a des pays où les gens peuvent pas sortir de chez eux pratiquement. Même toi, exemple, si tu voulais aller en Chine ou au Vietnam, tu as besoin d'un visa pour entrer. Donc, ça veut dire qu'il y a une processus qui est plus, quand même plus facile dans certains pays que le Canada à bien des égards. Là. Mais rapidement, donc, il y a des pays où il y a un certain contrôle qui va être fait. Mais ce qui est intéressant quand les gens ont déjà eu un visa des États-Unis, Patrick, c'est que dans le fond, le Canada prend pour acquis que les États-Unis ils ont déjà filtré. Donc, ils disent, si les États-Unis les ont déjà filtrés, ben nous, on est confortable de les faire passer par la procédure accélérée, si tu veux. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose aussi. Tu peux avoir un visa pour visiteur, tu peux avoir aussi l'ESTA, un document temporaire qui est demandé.
Puis pourquoi qu'on a besoin de filtrer une joueur de tennis mondial que tout le monde connaît, qui si c'est ça son travail de faire des tournois, là, je veux dire, c'est pas, elle se fait pas passer pour, c'est pas une fausse identité, là, c'est pas que quelqu'un qui rentre sous d'autres prétextes. Pourquoi qu'on a il n'y a pas de traitement préférentiel.
C'est vraiment lié au passeport. Là. Donc, tu viens du Bélarus, tu as besoin d'un visa. Là. Donc, c'est pas lié, c'est pas une attaque personnelle contre ces joueuses de tennis-là, bien qu'il y a des gens qui pensaient qu'il y a des athlètes qui ont été retirés de Wimbledon pour des questions de la guerre en Ukraine. Ici, c'est pas ça du tout. La machine est débordée et la personne avait besoin d'un visa, puis elle fait pas partie d'un programme d'exception qui est l'autorisation de voyage électronique. Mon autre conseil du praticien, encore là, celui-là n'est pas facile, c'est de transférer les athlètes professionnels dans le programme qui s'appelle Stratégie en matière de compétences mondiales, là, qui permet, lui, d'avoir un permis de travail en 2 semaines. Fait qu'on, le Canada, quand il veut, il peut là, raccourcir les délais de traitement. Par contre, c'est pas vraiment un permis de travail qu'on veut, parce que ces gens-là, grosso modo, là, les athlètes qui viennent faire une prestation unique, ils viennent pas jouer dans un film, par exemple, ils veulent pas l'emploi d'un Canadien. Donc, eux, c'est des visiteurs qui peuvent travailler sans permis pour la durée de leur représentation. Là où c'est problématique, les inventaires de dossiers sont trop nombreux. Puis cette dame-là, bon, c'est pas non plus la demande quand est-ce qu'elle a été présentée, mais juste pour te donner une idée, Patrick, j'ai des dossiers en Moldavie, un client qui a une conjointe là-bas avec sa petite fille, veut la faire venir, dossier traîne depuis le mois de mars, donc il s'est rien passé. D'un pays à l'autre, on le voit, c'est plus sensible. Là. La machine avec l'Ukraine, c'est beaucoup rempli là, dans les derniers mois, évidemment. Là.
Écoute, tu veux nous parler d'une vague de fermeture aux Galeries Courmande à Québec. Qu'est-ce qui se passe?
Ah ben, en 2019, on a lancé en grande pompe les Galeries Gourmandes, là, qui était un regroupement dans le fond de comptoirs, de restaurants,
c'est où ça à Québec exactement?
Galerie de la Capitale, dans le fond, ça faisait partie du plan de relance des Galeries de la Capitale d'avoir une offre culinaire, disons, plus haut de gamme, là, avec Ricardo qui s'est installé là. Les Restos Plaisir ont un restaurant aussi qui s'appelle Madame Chose. Et il y a d'autres commerces de proximité, là. Et ce qui est particulier là-dedans, bon, c'est que 3 ans plus tard, une vague de fermeture, là, les gens se promènent, se demandent pourquoi c'est autant fermé. Les locataires, les entrepreneurs, eux, blâment le locataire, la compagnie Oxford, et le locataire, lui, blâme la COVID. Donc, on vient qu'à se demander dans ce dossier-là, Patrick, est-ce que la COVID a tué une chance d'avoir un projet d'affaires complètement innovant qui aurait marché à fond, ou est-ce qu'elle a gardé sur le respirateur artificiel des projets d'affaires qui n'avaient pas lieu d'être? On parle de des entrepreneurs qui étaient un peu débutants dans certains cas, des mises de fonds qui étaient assez élevées. Et oui, bon, le promoteur n'a pas livré la marchandise au niveau de la publicité. On met la faute un peu aussi sur l'arrivée d'Adonis, pas loin, qui fait en sorte que l'offre de produits haut de gamme, si tu veux, s'est améliorée. Mais moi, je pense que plus globalement, il y a sérieuse question à se poser. Dans un centre d'achat, on peut pas juste remettre de l'argent dans le centre d'achat puis espérer que les gens viennent. On a besoin de projets qui sont plus porteurs, là, que des galeries gourmandes, où est-ce qu'on peut aller acheter du saucisson et du jambon, là, je veux dire. À Québec, on déborde de places comme ça, là.
Mais
les gens, malheureusement, mangent pas.
Tu touches un point quand tu dis la pandémie a fait en sorte à garder ce respirateur artificiel des entreprises qui avaient peut-être un modèle d'affaires déficient. Tu fais référence aux subventions aux entreprises du gouvernement fédéral, par exemple?
Oui, puis le Québec aussi a subventionné les salaires, là. Donc, tu sais, c'est pas juste le prêt d'urgence, le compte d'urgence du Canada, là, les subventions au logement. Donc, il y a eu peut-être 75% des frais de loyer qui ont été absorbés par le gouvernement pendant plusieurs mois. Donc, il y a eu des mesures un peu, disons, électrochocs, là, en période unique de pandémie, là, j'en conviens. Mais je pense qu'il faut regarder plus globalement, là, qu'est-ce qu'on fait avec les galeries de la capitale. Patrick, tu le sais, tu viens de Québec. On y va pas tous les jours, là. Et c'est pas nous nécessairement la clientèle type. Est-ce qu'on devrait peut-être regarder faire un hôtel, par exemple? Mm. Si on avait un hôtel de 200 chambres dans les galeries de la capitale, ben là, au moins dans les manèges, il y a 50 millions d'investissements qui a été mis dans les galeries de la capitale dans les deux dernières années. On veut de l'argent neuf à Québec. On veut pas juste avoir plus d'offres de produits nichés pour la population vieillissante qu'on a ici dans la ville de Québec. Donc, un hôtel, des condos, location court terme, la mode est à ça. T'sais, les promoteurs immobiliers veulent construire du location court terme. Airbnb, les plateformes de ce genre, ça marche bien partout sur la planète. Les gens ont un appétit d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus personnalisé qu'une chambre d'hôtel, où est-ce qu'ils peuvent cuisiner. L'emplacement est parfait. Dans un centre d'achat comme ça, les gens peuvent aller magasiner, peuvent aller au restaurant, remonter coucher dans leur appartement. Ma troisième suggestion, après les hôtels puis les condos de location court terme, Patrick, peut-être des appartements pour travailleurs étrangers. On est rendu là. Donc, les galeries de la capitale, très bien placées, avec le tramway qui s'en vient, il va y avoir des stations qui vont connecter à toute la ville à partir de là. Autant la couronne nord, là, si tu veux, avec l'autoroute Robert-Bourassa, d'Estimauville. Les entreprises pourraient facilement, eux, vouloir investir eux-mêmes dans des projets immobiliers, où est-ce qu'on pourrait densifier. Et encore là, on aurait le même effet. On aurait des gens qui viendraient, il y aurait une rotation, premièrement, de clients, de travailleurs, de touristes qui viendraient dépenser de l'argent neuf, parce que ce projet-là, même les locataires le disent, c'était un flop annoncé. Nous, on en parlait à micro fermé avec nos amis en 2019. On n'est pas allé souvent, disons, Galerie de la Capitale ou Galerie Gourmande. Il y a vraiment une grande réflexion à avoir. Tu vois, avec Place Laurier à Québec, le promoteur veut mettre 1 milliard pour faire des centres d'achat, des chambres, des pavillons universitaires. Donc, la nouvelle ville de Québec doit vraiment se réinventer. Et ça prend plus d'offres, à mon avis, de location, d'hébergement court terme.
En tout cas, ça fait une réflexion à voir sur le rôle des centres d'achat aussi, qui va être pertinente à Montréal aussi, parce que avec les achats en ligne et toutes sortes de transformations, qu'est-ce qu'on va faire justement avec ces grands espaces-là? Maxime Lapointe, je rappelle, tu es avocat en immigration, collaborateur aussi à l'émission. À demain.
À demain.